On va parler à quelqu'un qui est dans les tranchées, dans la lutte à la COVID. Vous le connaissez bien, il intervient souvent dans les médias. Docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours si on compare aux autres vagues à Maisonneuve-Rosemont?
En fait, il n'y a pas tant d'admissions que ça de plus de ce temps-ci. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus de place de soins intensifs à cause du manque d'infirmières. Donc, j'ai beaucoup de lits libres, mais c'est pas des lits qui sont disponibles. C'est que les patients ont tendance comme ça à attendre à l'urgence, disons. Et dans le contexte d'une troisième vague où clairement la hausse des cas est à venir, c'est certain que c'est inquiétant. Maintenant, ça, c'est à Maisonneuve-Rosemont. Il y a des situations similaires à des degrés différents un peu partout au Québec. Je pense pas qu'on est même près d'être au maximum de l'offre de soins intensifs qu'on avait, par exemple, avant la première vague.
Donnez-moi des ordres de grandeur, s'il vous plaît, docteur Marquis, là. Parce que on l'a toujours dit puis on le répète, c'est pas tout d'avoir des lits puis des ventilateurs. Faut avoir des bras pour les opérer. Si on manque d'infirmières, on a moins de lits. Là, disons que vous aviez X lits au début de la pandémie. Vous en avez combien maintenant?
Bon, disons qu'habituellement, là, je devrais rouler autour de 22, 24 lits de soins intensifs. Ça, c'était dans un monde sans COVID. Présentement, j'ai 14 lits de disponibles. Là-dessus, il y en a 7 qui sont réservés pour les COVID. C'est essentiellement, j'ai 50% de mon unité qui est dédiée au COVID, 50% pour le reste de l'hôpital. Et ça, c'est directement le manque des infirmières, le manque d'infirmières et le manque d'inhalothérapeutes.
Ça, c'est ce que vous soulignez, pour pas dire dénoncer depuis un an environ.
Oui, à peu près. Et à chaque vague et à chaque mois qui passe, la situation est un peu pire. Et ça, un peu tout le monde a vécu la même chose, mais c'est particulièrement criant dans l'Est. On se rappelle que la première vague avait frappé très fortement l'Est de Montréal et que Maisonneuve avait été au rendez-vous pour accueillir tout ce beau monde-là. Ça l'a laissé une empreinte profonde sur nos équipes. Et on paye un peu pour maintenant. Là.
Qu'est-ce qui a changé, Dr Marquis, dans le profil des patients qui sont sous vos soins, aux soins intensifs?
Ils sont vraiment plus jeunes. Et ça, j'en parlais avec mes collègues d'un peu partout. Disons que la moyenne d'âge, facilement, a dû descendre d'un bon 10-15 ans. C'est certain, là, j'ai pas calculé tous les âges puis fait une moyenne, là, mais à vue de nez, ce qui était avant nos 70 plus qui arrivaient des CHSLD, maintenant sont tous vaccinés. Là. Donc, on a vraiment des gens plus jeunes et des gens qui n'ont pas vraiment d'antécédents. Je parlais avec un collègue qui faisait l'étage. Ils ont un gars de 30 ans qui a été extrêmement malade. Donc, tous ceux là qui pensaient aux deux premières vagues, nous, ça nous touche pas. Ben faut croire que c'est tenté de les toucher.
Mais c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que si on est plus jeune, on est plus fort, notre système immunitaire est plus résistant, plus de chances de survie, non?
Oui, mais paradoxalement, le problème pour le système, c'est que comme on est plus jeune, si on se ramasse aux soins intensifs, on risque d'avoir une hospitalisation beaucoup plus longue. Pourquoi? Ben parce que quelqu'un qui a été plus vieux, en mauvais état de santé, lui serait décédé rapidement. Les jeunes ont une grande capacité à tolérer la misère, comme on dit. Et donc, ils peuvent rester très longtemps aux soins intensifs, plus longtemps que quelqu'un de 70 ans, ou chez les patients plus âgés, ça passe ou ça casse. Chez les jeunes, on a des longues hospitalisations avec, ensuite, faut pas oublier, après les soins intensifs, il va y avoir toute la réadaptation, physiothérapie, centre de convalescence et potentiellement des gens qui vont garder des impacts sur leur vie pour des années à venir. Moi, je commence à voir des patients en clinique externe qui m'appellent, qui m'interpellent, qui disent « Docteur, depuis que j'ai fait mon COVID, j'étais allé aux soins intensifs, je suis faible, j'étais soufflé, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? » Et on parle de gens dans la cinquantaine qui n'avaient aucune limitation avant leur COVID.
OK, je vous sors un peu des soins intensifs, Dr Marquis, là, je vous amène sur le terrain de la vaccination. C'est pas votre terrain de prédilection, mais ça a quand même un impact sur ce qui se passe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. D'abord, j'ai envie de vous demander, là, vous voyez comme moi les problèmes qu'on a à vacciner des Québécois, à sortir des petites cases des groupes d'âge. Est-ce que vous êtes impressionné par votre gouvernement et son effort de vaccination?
Bien, je pense qu'au début, il y avait toute la gestion du nombre de doses. Maintenant que les doses sont de plus en plus disponibles. Je pense que ce qui est important, c'est la fluidité, c'est d'être capable de s'adapter. Maintenant, ça, ça me dérange pas du tout, moi, le concept de dire qu'on va prendre des doses, les envoyer dans certaines régions qui sont plus touchées, d'être plastique à ce niveau-là. Honnêtement, c'est ce qu'il faut. Il faut être capable de s'adapter. Et là, ce qui est important, c'est de maximiser les gens qui peuvent se faire vacciner en fonction du nombre de doses qu'on a. On ne devrait pas finir la journée avec des doses qui n'ont pas été administrées. C'est ça qui devrait être la priorité, là.
Bien, écoutez, je vais vous donner une statistique, là. Ce que j'ai vu, là, c'est 742 000 doses d'écart entre ce qui a été reçu et ce qui a été injecté. Puis on se comprend qu'il y en a une partie qui est en transit, selon le gouvernement. Mais trouvez-vous que c'est trop?
Bien, en fait, ce qu'on vise, là, c'est qu'il n'y en ait pas. Idéalement, ça serait zéro. Maintenant, il y a plusieurs stratégies que le gouvernement peut prendre, là. On pourrait facilement, par exemple, ouvrir à des plus grands groupes d'âge. On pourrait aussi faire un peu ce qu'il y avait à l'époque où on avait le droit de voyager. Vous vous rappelez, les gens qui voyageaient en stand-by, où ils mettaient leur nom sur une liste, puis s'il y avait un billet, go, ils prenaient le billet. On pourrait faire du stand-by de vaccination où des gens dans des groupes d'âge qui sont pas priorisés. S'il y a des doses disponibles, ben go, on les appelle puis on les vaccine.
OK, je vais vous poser la question autrement. Okay? Vous êtes dans le système, vous vivez de ce système-là. Puis ça, la métaphore du billet stand-by, là, elle a été utilisée, là, je l'ai entendu souvent, depuis 10 jours. Le gouvernement ne l'a pas mise en place. Sachant comment ça fonctionne dans les CIS, dans les CIUS, etc., êtes-vous surpris qu'il n'y a pas de souplesse?
C'est une bonne grande question parce que les centres de vaccination, honnêtement, je connais pas leur organisation, mais la dernière chose qu'on veut, là, c'est une espèce de panique sur le Titanic où là, il y aurait aucune direction pour dire aux gens, allez dans les centres de vaccination, il y aurait des files interminables, ça serait le chaos, puis les gens se donneraient la COVID au lieu de se donner le vaccin. C'est que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle si on veut pas que ça dérape et que les zones de vaccination deviennent des zones d'infection. Ça serait vraiment le plus stupide qui pourrait arriver, là.
Merci beaucoup, Dr. Marquis.
Ça fait plaisir.